Radio Starbit.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Nous n'avons jamais ressenti quelque chose comme ça. Cette liberté, on a l'impression qu'elle va peut-être s'évaporer le lendemain.
Et c'est du Zimbabwe que vient cet enthousiasme, un Zimbabwe euphorique qui organise pour début juillet ses premières élections sans Mugabe, chassé du pouvoir en novembre. Vous allez entendre comment ça se prépare. Pour l'instant, c'est le bonheur, c'est l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars et Florence Paracuelos, cette villa avec piscine qui embarrasse le leader de Podemos, une villa pas très gauche compatible selon ses partisans. Florence parlera aussi du plus vieil homme du monde, apparemment un Mexicain qui vient de se faire connaître. Il aurait 121 ans. En 18h50, le monde selon Trump, saison 2, le président qui estime que le FBI s'est incrusté dans sa campagne. Vous entendrez aussi Bill Gates, peu amène avec le patron des États-Unis. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger en Australie avec un compte 200 athlètes des Jeux du Commonwealth qui ont fait défection et qui demandent à rester en Australie. Ça fait beaucoup. Mais d'abord, direction la Catalogne, son nouveau patron qui commence son mandat avec des nominations qui forcément agacent déjà Madrid. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Il apprend donc à se faire connaître le nouveau président de Catalogne, un fidèle de Carles Puigdemont, on l'a déjà dit, on y reviendra. Il s'appelle Quim Torra et pour marquer son arrivée, sa première décision a été de défier Madrid en nommant dans son gouvernement des ministres incarcérés ou exilés. Bonsoir Christophe Barret.
Bonsoir.
Cet historien, vous avez écrit notamment La guerre de Catalogne aux éditions du Cerf. C'est vraiment une manière de marquer son territoire, ces nominations. Il sait exactement ce qu'il
est en train de faire. Tout à fait, il s'agit de ne céder aucun pouce de terrain, selon la stratégie qui a été fixée. On a présenté ces jours derniers Quim Torra comme une marionnette dans les mains de Carles Puigdemont qui est à Berlin, mais c'est surtout un bras armé avant tout, et quelqu'un qui partage complètement cette envie d'atteindre cet objectif de l'indépendance de la Catalogne, de cette région autonome.
Alors on y reviendra parce qu'on dit qu'effectivement il est même presque plus jusqu'au boutiste que Puigdemont, mais est-ce qu'il l'a vraiment dans l'oreillette Puigdemont depuis Berlin ou pas?
Oui, complètement. Du reste, il est déjà allé le voir avant aujourd'hui d'aller voir les prisonniers politiques ou les politiques prisonniers, selon le camp dans lequel on se place, dans les prisons madrilènes. Il a été président d'une association, Omnium Cultural, qui a joué un très grand rôle dans la mobilisation des foules à partir de 2012 pour la mise en œuvre de ce process, donc ce processus qui devait mener à l'indépendance. Il y a entente complète entre les deux hommes, on peut imaginer. Il y a quelques grincements du côté de l'autre allié indépendantiste, de Esquerra Republicana, la gauche républicaine, qui elle ne veut pas entendre parler de gestes illégaux, de ce qui pourrait remettre en cause la réinvestiture d'un gouvernement autonome, mais c'est la gauche de Puigdemont, c'est la tendance de Puigdemont qui est dominante.
Mais alors, quand même, l'élection s'est faite à un tout petit chouïa, un tout petit doigt quand même. Ça prouve que même dans ce camp-là, ça devient extrêmement compliqué en ce moment en Catalogne quand même.
Oui, tout à fait.
66-65, si mes souvenirs sont bons.
Voilà, tout à fait. Avec l'abstention de la fameuse coupe, donc cette gauche radicale qui, elle, a toujours au programme aussi, à son agenda, l'accession à l'indépendance. Donc, pour être investi, Quim Torra a dû céder un petit peu à la coupe, notamment pour la création d'une institution, d'un Conseil de la République, un petit peu en exil, qui sera dirigé par Carles Puigdemont, et puis pour la mise en place de ce qu'on appelle un processus constituant, qui est là cher à tous les populistes de gauche en Espagne, qui doit mener à une république indépendante.
Mais est-ce que ça veut dire que, normalement, la mise sous tutelle de la Catalogne devait disparaître une fois qu'un certain nombre de choses étaient mises en place? Est-ce que ça veut dire, devant cette forme de provocation déjà, que la mise sous tutelle, elle continue? En fait, est-ce qu'on peut le maintenir indéfiniment, ce fameux 55?
Ce week-end, on est encore rentré dans le piège dans lequel voulait faire entrer Quim Torra le gouvernement de Madrid, c'est-à-dire un vide juridique. Le gouvernement de Madrid a refusé de publier le décret au bulletin officiel de la Catalogne, le décret de nomination des membres du gouvernement, parce que, bien sûr, parmi ces membres du gouvernement, on l'a dit, il y a quatre personnes poursuivies par la justice. Et on ne sait pas s'il a vraiment le droit. Certains indépendantistes ont annoncé qu'ils allaient porter plainte pour prévarication contre le gouvernement espagnol.
Mais c'est parce que c'est quand même assez finaux, parce que les nominations, elles sont légales pour l'instant, pas jugées, pas condamnées.
C'est un des forts enjeux, c'est un des trois terrains sur lesquels les indépendantistes veulent se battre. C'est celui des libertés politiques, il s'agit de dire que l'Espagne n'est pas un État démocratique. Et bien sûr, le conflit reste donc entier devant les juges.
Donc en attendant, est-ce que la mise sous tutelle se poursuit? Est-ce qu'elle peut se poursuivre? Qu'est-ce qui va se passer?
Normalement, elle devait cesser, parce que ça faisait partie de l'accord que le Parti populaire avait conclu avec les socialistes, avec Ciudadanos, ce populisme de droite qui le submerge. Cet article 155 devait tomber donc avec l'approbation de ces décrets, avec cette publication des décrets qui installent le nouveau gouvernement catalan, dont le chef a été élu. Mais là, on parle donc d'une possible continuation de l'article 155, et peut-être d'un article 155 même un petit peu plus dur, qui cette fois-ci aussi tenterait de contrôler les services publics d'information. Il y a une télévision et une radio catalane qui sont très, très pro-indépendantistes. Et qui, là, pourrait être, se retrouver un petit peu, elle aussi, sous tutelle. On est dans un nouveau bras de fer, en fait, qui ne fait que continuer. On avait pensé que les choses allaient se calmer, qu'après, le fait que le mouvement indépendantiste a été décapité après le référendum et toutes ces arrestations. Finalement, non, ça continue. Une logique d'affrontement qui continue. C'est ce que j'essaie un peu d'écrire aussi dans mon livre.
Et avec certains indépendantistes, d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, qui souhaitait, comment on va appeler ça, une sorte de tournant réaliste, en fait, quelque chose qui permettrait au moins d'entamer une forme de dialogue. Cette porte, elle est fermée, apparemment.
On se disait, voilà, bon, maintenant, pour 10 ou 15 ans, on va essayer de re-rentrer dans la légalité, de regagner, essayer de gagner du temps pour gagner du terrain, rassembler cette majorité sociale qui n'est toujours pas rassemblée. Il faut rappeler que le scrutin électoral en Catalogne, il avantage les indépendantistes, parce qu'il avantage les zones rurales. Ils ne sont pas majoritaires à Barcelone. Il y a c'est un petit peu cette plateforme Barnia qui renverse un petit peu les slogans indépendantistes qui voudraient que la Barcelone continue à être espagnole, européenne. Les choses sont très compliquées. Il faut... Ils se battent. Torrent, effectivement... Est un indépendantiste qui se bat. Il joue toutes ses cartes. Donc cette carte de la bataille juridique, il essaie de la jouer avec celle de l'internationalisation. Le fait que nous en parlions aujourd'hui de cette question catalane, c'est le deuxième volet, celle de cette guerre qui est en marche.
Alors que nous en parlions, que nous en reparlions quand même. Mais c'est vrai qu'on avait un petit peu laissé tomber l'Espagne un certain temps. Vous le disiez, c'est sa stratégie. Mais est-ce que c'est réellement la seule stratégie? Et au fond, ça nous amène où? On va pas retenter le vote sur l'indépendance, ce serait probablement une grosse erreur politique. Donc ça nous emmène où, ça?
Ça ne nous emmène nulle part. Les gens qui sont un petit peu les équidistants, qui sont les grands perdants que j'ai interrogés, qui sont proches de Podemos. Je suis passé de l'étude de Podemos un petit peu à ce phénomène catalan, parce que les gens de Podemos essayaient d'avoir un jeu équidistant.
Ils ont toujours été entre deux chaises chez les Podemos.
Autodétermination, mais pas indépendance. Et finalement, ce qu'ils me disaient là, c'est que on coupe les ponts quand on commence une guerre, justement. Donc ceux qui essaient d'être conciliateurs ne sont pas gagnants. Ce qu'il constate, c'est que, bien sûr, la Catalogne se retrouve dans un statut de pré-autonomie. Mmh. On se retrouve même dans une situation qui était celle qu'il y avait avant 1978, avant le statut d'autonomie, ce qui est très grave pour tout le monde. On ne sait pas. Peut-être que c'est rassurant aussi, peut-être que c'est simplement l'État espagnol qui est en train de se centraliser, comme le nôtre s'est centralisé, avec un patriotisme démocratique qui pourrait faire que une partie des Catalans s'y rallient, ces fameux Catalans qui votent pour Ciudadanos. Voilà, une espèce de nouvelle transition en Espagne qui s'ouvre.
Christophe Barré, restez avec nous. Je voudrais qu'on aille faire un tout petit aller-retour à Barcelone. Bonsoir Ferran Brunet.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, vous êtes membre de la société civile catalane, vous militez contre l'indépendance, c'est bien de le préciser. Moi, je suis assez curieuse, en fait, depuis cette dernière semaine, et notamment hier, cette nomination de gouvernement. On est dans quel état à Barcelone, quand on est dans ce camp-là pour vous? Est-ce que vous vous dites, c'est pas vrai, c'est toujours pas fini, on est loin d'en sortir, ou est-ce que finalement, vous n'êtes pas très étonné? Vous êtes dans quel état d'esprit?
Oui, je suis tout à fait étonné, parce que on y avait l'opportunité de s'entendre entre les Catalans. Il y avait une opportunité de passer page des gros faits d'octobre pendant lesquels on a proclamé la République catalane et l'indépendance sans aucune conséquence. Ce fut un coup d'État donné par un gouvernement régional et une révolte sur les rues. Mm-hmm. On a surpassé tout ceci. Mais les élections du 21 décembre, malgré que le nombre des voix a été majoritairement constitutionnaliste du point de vue des députés, il y a une petite majorité soutenue par les anarchistes de la CUP.
Mais du coup, maintenant,
des séparatistes.
Pardon, alors, Monsieur Brunet. Et maintenant, alors, est-ce que vous vous dites ça recommence? Dans quel état d'esprit vous êtes?
Bon, ça va pas recommencer parce que tout le poisson a été déjà vendu, la République a été proclamée, l'indépendance aussi. Alors maintenant, nous croyons que les majoritaires séparatistes allaient faire ce qui soit nécessaire pour se maintenir au gouvernement, mais avec ces provocations-là, ça sera impossible. Et alors, les scénarios, c'est probablement le pire des possibles, mais c'est la cause des séparatistes, naturellement, c'est eux qui veulent ceci. Moi, je crois, comme la personne qui a parlé auparavant, que effectivement, Monsieur Torra est une marionnette de Monsieur Puigdemont, mais une marionnette de cinquième ou sixième niveau, c'est-à-dire une personne qui n'a aucune capacité de lui faire sombre, parce qu'il y avait d'autres personnes qui pourraient être élues comme président de la Catalogne, qui étaient, soi-disant, plus possibilistes.
Pas lui
qui
faire
ouvert, oui.
Et ne pas lui faire pouvoir. Et ne pas lui faire d'ombre. Ferran Brunet, vous qui êtes économiste dans les milieux d'affaires, comment cette nouvelle s'est traduite? On avait l'impression que les choses étaient un petit peu revenues, parce que la croissance est revenue aussi, que tout le monde s'était un peu calmé, en fait, depuis décembre dernier. Et maintenant
Bon, maintenant, il n'y a qu'une banque qui maintient son siège à Barcelone, tous les autres sont partis. Et il y a 4500 grosses entreprises qui sont parties. Et alors, bon, ceci va avoir des conséquences, naturellement, parce que la compétitivité de la Catalogne est en doute. Vous savez, en 2011, la position de la Catalogne sur le ranking des régions européennes, c'était la position 103. En 2016, c'est-à-dire avant des gros faits de 2017, la position de la Catalogne était la position 153 sur 272 régions. Alors, vous savez, une région spécialisée sur l'industrie, sur le siège de sociétés étrangères, françaises en particulier, avec une bonne internationalisation, si tout ceci tombe graduellement, ça sera important pour la Catalogne. La Catalogne, c'est une petite région, seulement 7 millions de personnes, mais naturellement pour nous, c'est un avant et un après.
Merci beaucoup Ferran Brunet pour ce point de vue qui est le vôtre depuis Barcelone. Christophe Barret, pour reprendre sur ce même terrain-là, on avait l'impression effectivement que les milliers d'affaires s'étaient rassurés, les choses étaient revenues plus ou moins dans l'ordre, la croissance était en train de repartir. Est-ce que du coup c'est juste un soubresaut là et il ne se passera rien économiquement? La saison du tourisme commence, donc c'est important.
Tout
aussi.
À fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Ce sont des sièges sociaux qui déménagent, pas des unités de production. Donc économiquement, la Catalogne n'a pas vu baisser son PIB. Ce qui est intéressant, pour revenir sur la stratégie de Torra, pourquoi est-ce qu'il continue à avoir Puigdemont en référence
dans l'oreillette,
dans l'oreillette? C'est parce que c'est le troisième champ de bataille, c'est le terrain légitimiste. C'est-à-dire que c'est une démarche légitimiste, une stratégie légitimiste pour dire.
C'est-à-dire le patron, c'est Puigdemont.
C'est Puigdemont, c'est lui qu'on a renvoyé, c'est lui qui a été obligé de prendre l'exil. Et pour bien le signifier, Quim Torra a laissé le jour de son investiture le collier du président catalan. Qu'il doit normalement être mis autour du cou en signalant qu'il n'était là un petit peu que pour assurer une intérim.
Ça veut dire qu'il lui cède la place dès lors qu'il peut rentrer, si un jour Puigdemont peut rentrer, ce qui finira par arriver, pas tout de suite j'imagine.
Oui, pas tout de suite, et puis c'est vrai qu'on imagine mal comment peut fonctionner un gouvernement par correspondance, mais du gouvernement d'exil, il y en a eu pendant la guerre, mais c'est quand même un autre contexte.
Alors, mais justement, c'est Puigdemont, je crois, qui disait, c'était dans la Stampa, si mes souvenirs sont bons, que tout ça pourrait durer à peu près jusqu'au mois d'octobre, le temps de nouvelles élections. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de purement intérimaire, en fait, ou pas?
C'est possible, c'est tout à fait possible. Pourquoi octobre? Parce qu'en octobre, bien sûr, il y aura un an que la dissolution a été prononcée, donc légalement, il sera possible de faire une dissolution. Donc, les éditorialistes, ce matin, à Barcelone, s'amusaient en disant, Puigdemont peut décider, comme s'il n'y avait pas de Quim Torra qui était là, le nouveau président pour décider à sa place. Mais le gros coup que pourrait jouer Puigdemont, ce serait une dissolution au moment des élections municipales, régionales et européennes au printemps prochain, parce qu'en Espagne, toutes ces élections vont tomber en même temps. Et là, pour organiser un grand plébiscite indépendantiste qui pourrait aussi renvoyer dans ses cordes Ada Colau, qui est la maire de Barcelone et qui est une épine dans leur pied, même si elle a quelques accointances avec eux.
Qu'est-ce qui se passe pour Puigdemont, depuis son exil pour l'instant allemand, en ce moment, juridiquement, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Ça peut durer longtemps, cette histoire, ou pas?
Ça peut durer longtemps. Ils emmagasinent, les indépendantistes, les victoires, parce que donc il y a un juge belge qui a refusé d'extrader deux anciens conseillers, deux anciens membres du gouvernement catalan. Donc on les a vus trinquer à la une des journaux. Puigdemont, il bénéficie un petit peu des précautions que veut prendre la justice du Land qui doit le juger. On On a vu le ministre des Affaires étrangères espagnol s'agacer de ce que la ministre des Affaires étrangères allemande dise qu'effectivement, il fallait prendre son temps et examiner toutes les pièces du dossier. Tout ça rend les Espagnols très nerveux.
Est-ce qu'on peut imaginer un retour de Puigdemont triomphant sur des épaules et finalement libre de tout lien avec la justice ?
Non, parce que dès qu'il mettra les pieds en Espagne, il sera arrêté et jugé pour les délits qui ont tout de même été commis.
Voilà, donc on n'a pas fini, ni de ce côté-là, ni la réaction de Madrid, effectivement, après ces nominations-là, et d'autres épisodes, et on verra dans 5 mois, ou peut-être avant, même si des élections sont organisées. Christophe Barret, vous serez là pour revenir. Merci beaucoup. Je rappelle que votre dernier ouvrage s'appelle « La guerre de Catalogne » et c'est aux éditions du CERF. Merci mille fois.
Merci.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, c'est au Zimbabwe qui organise des élections. C'est à venir dans une véritable euphorie pour l'instant. En tout cas, ce sont les premières élections depuis Mugabe. C'est un gros symbole sous les radars. Et Florence Paracolos avec une question. Peut-on donc avoir une grosse villa avec piscine quand on est Podemos en Espagne? Apparemment, c'est pas si simple. Le Monde selon Trump, saison 2. Grégory Phillips, bonsoir.
Bien.
Vous avez un président, Grégory, qui se plaint du FBI, mais sous un autre angle.
Oui, la question est de savoir si le FBI a infiltré l'équipe de campagne de Trump pendant la présidentielle. Trump est furieux, il ne décolère pas, il va demander au département de la justice d'enquêter là-dessus.
Voilà, l'art d'essayer de jouer à l'arroseur arrosé. À tout à l'heure, Grégory, l'édito d'Anthony Bélanger. Anthony, bonsoir.
Bonsoir.
Défections en très grand nombre alors au jeu du Commonwealth en Australie.
Oui, 200 athlètes qui
200,
ont demandé,
c'est beaucoup,
200,
hein.
Et c'est énorme, qui ont demandé l'asile politique à l'Australie. Enfin, se demander, c'est inédit. On va se demander pourquoi un tel chiffre. Est-ce que ça dit de l'Australie, de son rapport au monde?
Et on voit ça dans un instant. Le tour de la planète continue. Il passe par les États-Unis, par le Vermont. Tiens, très précisément, l'état d'origine de King Tuff, Psycho Star. Il s'appelle King Tuff sur France Inter, Psycho Star. Florence Paracolos est là, sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Florence, peut-on représenter la gauche radicale et s'offrir une belle villa bien cossue avec une grosse piscine.
La question fait la une en Espagne, Fabienne, où les dirigeants de Podemos, troisième force politique du pays, sont accusés de trahir le code éthique du parti. Pablo Iglesias, secrétaire général de Podemos, et sa compagne Irene Montero, porte-parole du groupe au Parlement, viennent d'acheter une villa de 270 mètres carrés avec piscine dans une banlieue chic de Madrid. Une acquisition à 600 000 euros, révélée par la presse, qui est vraiment très cher pour l'Espagne, financé notamment par un prêt hypothécaire sur 30 ans. Ils attendent des jumeaux qu'ils disent vouloir élever dans l'intimité. Là, c'est raté, vu le scandale des derniers jours. Quand on représente Podemos, on doit vivre comme les gens ordinaires, s'insurge notamment le maire de Cadix, un militant du parti. Et certains rappellent que Pablo Iglesias, il y a quelques années, avait critiqué le ministre de l'économie et son loft à 700 000 euros. Les deux leaders ont fini par sortir de leur silence hier. Pas pour dire qu'ils assument ou bien qu'ils renoncent à leur maison, non, ils annoncent qu'ils vont consulter les militants du parti.
Y hemos decidido preguntarles. La pregunta.
On va leur poser la question suivante. Pensez-vous que Pablo Iglesias et Irene Montero doivent continuer à assumer le secrétariat général de Podemos et le porte-parole du parti au Parlement? Deux réponses possibles. Oui, ils doivent continuer. Non. Ils doivent démissionner. Alors, vote ouvert demain.
Donc, c'est pas oui ou non la maison, c'est.
Non,
de
toute façon, la maison, il la garde. Exactement. De toute façon, la maison, il la garde. Le vote est ouvert demain jusqu'au 27 mai. C'est évidemment totalement inédit et largement critiqué depuis hier. Réaction démesurée, dit la maire Podemos de Barcelone, Ada Colau. Ils mettent les instances du parti au service de leurs caprices, dénonce un député. El País, dans son édito, parle d'une décision péroniste et caudilliste, ce qui fait nettement référence au pouvoir autoritaire et personnel de Franco. Bref, le petit paradis des trentenaires Iglesias et Montero sur les collines de Galapagar est en train de se transformer en enfer, Fabienne.
La suite, Florence, c'est une question. Qui est le doyen de l'humanité?
Officiellement, c'est un Japonais du nom de Masako Nonaka, 113 ans au compteur. Mais peut-être sera-t-il détrôné par un Mexicain de 121 ans. Manuel García Hernández est né le 24 décembre 1896. Comme 24 décembre. Comme on atteste son acte de naissance et sa carte d'identité. Il vit à Ciudad Juárez, à la frontière mexicaine, qui n'est pas précisément réputée pour sa longue espérance de vie. Puisque c'est un endroit de trafic et de crimes en tout genre. Il s'occupe encore des poules dans la maison familiale où l'AFP l'a rencontré. J'aimerais travailler comme avant, gagner de l'argent, mais je ne peux pas. Ben non, il ne peut pas. Il ajoute qu'il aimerait vivre jusqu'à 125 ans. Mais que Dieu le calmera peut-être. Je me sens comme si j'avais 80 ans, dit-il aussi à l'AFP. Il n'a pas du tout envie de mourir, ce monsieur, comme le souhaitait cet Australien de 104 ans qui s'est donné la mort en Suisse. On en a parlé la semaine dernière. Il n'a jamais démarché le livre des records. C'est justement le Guinness Book qui encourage maintenant sa famille à faire une demande. Et peut-être dépassera-t-il le record de longévité jamais égalé, celui de Jeanne Calment, Fabienne, qui est morte à 122 ans. Il en a 121, et donc il fêtera son anniversaire le 24 décembre prochain.
Monsieur le bureau,
il est motivé.
Encore une minute. Allez, Florence Paracuelos, sous les radars, dans Un jour dans le monde. Merci, à demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est au Zimbabwe que nous allons ce soir dans l'escale reportage d'Un jour dans le monde. Au Zimbabwe parce que c'est un pays qui est beau à voir en ce moment, qui attend avec beaucoup de ferveur ses premières élections post-Mugabe. Et ça compte vraiment, ça va se passer entre fin juillet et fin août, c'est ce que dit la Constitution. Mugabe, peut-être que vous vous en souvenez, on va y revenir, a été contraint à la démission mi-novembre sous la pression de l'armée, du peuple et aussi de son parti. Bonsoir Lisa Fabian.
Bonsoir.
Vous revenez, Lisa, d'Harare, la capitale du Zimbabwe. Pour info, c'est l'ancien vice-président en disgrâce, il s'appelle Emmerson Mnangagwa, qui a été placé à la tête de l'État. Il est candidat à sa propre succession avec deux grandes promesses. Offrir au Zimbabwe des élections libres et justes, donc ça c'est ce qui vient tout de suite, et aussi ouvrir le pays aux investisseurs étrangers.
Oui.
Le 18 novembre 2017, des centaines de milliers de Zimbabwéens descendaient dans la rue pour réclamer le départ de Robert Mugabe, un moment unique dans l'histoire du pays. 6 mois après ces grandes manifestations populaires, un vent de liberté souffle toujours sur le Zimbabwe. Le départ du vieux leader, l'effondrement de sa police secrète ont levé en partie la chape de plomb qui pesait sur le pays. Richard Chidza est journaliste dans la capitale Harare.
Nous n'avons jamais ressenti quelque chose comme ça. Cette liberté, on a l'impression qu'elle va peut-être s'évaporer le lendemain. Les gens peuvent s'exprimer maintenant. Je veux garder espoir. L'espoir qu'on arrive à maintenir cette paix, pour que les élections se déroulent dans de bonnes conditions, pour que les Zimbabwéens puissent choisir le leader qu'ils souhaitent et que nous puissions revenir sur la scène internationale et être à nouveau un pays du 21e siècle.
Le gouvernement d'Emerson Mnangagwa ne cesse de répéter que le Zimbabwe est désormais ouvert aux affaires, ouvert aux investisseurs étrangers. La réforme agraire, pilier de la politique économique controversée de Robert Mugabe, est notamment remise en cause.
My name is Carl. Before 2000, I was a farmer.
Je m'appelle Carl. Avant 2000, j'étais fermier et je possédais ma propre propriété. Après cela, la ferme familiale que mon grand-père avait commencée en 1931 a été reprise par le gouvernement d'une manière brutale. Mais depuis 3 ans, j'ai pu recommencer à cultiver grâce à un partenariat avec un fermier noir. C'est moi qui fais tourner la ferme et il touche un pourcentage sur les revenus. Jusque-là, ça marche plutôt bien.
Ce type de partenariat était en principe prohibé sous la présidence de Robert Mugabe. Désormais, les fermiers blancs peuvent à leur tour candidater pour obtenir un bail sur une terre agricole nationalisée.
Under Robert Mugabe, the land resettlement program was
very sensitive. Sous Robert Mugabe, le programme de rétribution des terres était une question très sensible, puisque le gouvernement estimait que la lutte pour l'indépendance des Noirs devait nécessairement passer par la rétribution des terres. Le nouveau gouvernement, au contraire, a noté la chute de la production agricole. Et il souhaite que la terre soit de nouveau productive et que l'industrie agricole zimbabwéenne redevienne productive. J'ai l'espoir de récupérer un jour ma terre à mon nom. Ma famille est établie au Zimbabwe depuis 4 générations et j'estime avoir le droit à une terre.
So I feel that I have as much right to land in Zimbabwe as any other person.
Carl avoue sans problème qu'il votera pour Emerson Mnangagwa aux prochaines élections, séduit par ses promesses d'ouverture économique. Dans le quartier populaire de Mbaré, l'ambiance est plus morose. Alex et ses amis jouent aux cartes autour d'une bouteille vide.
Le nouveau gouvernement avait promis que la situation économique s'améliorerait dans les 100 jours, mais rien n'a changé. Les jeunes n'ont toujours pas obtenu les emplois qui étaient promis.
...90% de la population zimbabwéenne est au chômage et survit grâce au secteur informel. Nathan est l'un de ces jeunes diplômés sans emploi. Nous le rencontrons en marge d'un rassemblement des syndicats. Le jeune homme estime que le nouveau gouvernement souffre d'un problème de légitimité qui freine pour l'instant les investisseurs étrangers.
Peu de choses ont changé avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Le problème, c'est que nos nouveaux dirigeants ont un vrai problème de légitimité. Certaines personnes disent qu'ils ont fait un coup d'État, d'autres parlent de transition démocratique. Oui, ils ont signé quelques contrats avec les Russes, avec les Chinois. Ce sont les mêmes avec lesquels Robert Mugabe faisait déjà affaire. Donc on ne peut pas dire que la situation économique ait changé.
Les élections qui doivent se tenir dans quelques mois seront un test décisif pour le Zimbabwe et la crédibilité de ses dirigeants sur la scène internationale. Emerson Mnangagwa promet un scrutin libre et juste et la venue d'observateurs internationaux. Mais certains Zimbabwéens n'ont pas oublié que le président actuel est considéré comme l'architecte des violences post-électorales de 2008. Membre de l'opposition, l'avocat Moses Nkomo dénonce le double langage du gouvernement mis en place par l'armée.
For me, Pour moi, ce qui s'est passé au mois de novembre réunissait tous les ingrédients d'un coup d'État, notamment la détention arbitraire de certaines personnes. C'est normalement interdit par la Constitution. Mais c'était une intervention très bien chorégraphiée. Maintenant, nous avons un gouvernement dont un quart est composé d'anciens militaires. Et pour moi, cela montre que nous avons un gouvernement militaire au Zimbabwe. Le risque qu'ils ont pris au mois de novembre était juste trop important pour qu'ils acceptent de laisser le pouvoir comme ça à un gouvernement civil légitime. Je pense que la ZANU-PF en tant que système n'est pas réformée, peu importe ce que dit le président.
Aucune date n'a pour l'instant été annoncée pour la tenue de ces élections générales qui doivent avoir lieu entre la fin juillet et la fin août au Zimbabwe.
Fabien au Zimbabwe pour Un Jour dans le Monde. Merci Lisa. On vous retrouve demain d'ailleurs, épisode 2 de ce Zimbabwe, de son vote historique. On verra où en est le pays, notamment économiquement. Grégory Porter sur France Inter, l'écho de Spirit. Let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind. When the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long. The water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. The rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid Spirit, il l'a dit, Grégory Porter.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Le Monde, selon Trump, saison 2, Grégory Phillips avec un ancien président Trump, Grégory, qui essaye le coup de l'arroseur arrosé, toujours empêtré dans l'enquête russe, les collusions pendant sa campagne. Voilà qu'il réplique en affirmant que sa propre campagne a été espionnée par le FBI. Franchement, Grégory, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une fiction? Un contre-feu? Comment on appelle ça?
Alors peut-être un peu des deux, en tout cas Trump ne décolère pas contre le FBI et le ministère de la Justice et depuis vendredi dernier il accuse donc l'agence fédérale de l'avoir espionné et d'avoir même infiltré son équipe de campagne. Si c'est vrai, écrit le président américain, alors ce serait le plus gros scandale politique de tous les temps. Imaginez un agent du FBI au cœur du réacteur nucléaire de la campagne du candidat Trump en 2016. Le président affirme qu'il va demander aujourd'hui même au ministère de la Justice d'ouvrir une enquête, mais c'est vrai que ces tweets rageurs ont quand même l'air d'un contre-feu feu pour détourner l'attention de l'autre enquête, celle du procureur spécial Robert Mueller sur une éventuelle collusion avec la Russie. Chasse aux sorcières, ne cesse de dire Trump. Witch hunt, pour l'instant, les équipes du procureur spécial poursuivent leurs investigations. Et on ne sait toujours pas, Fabienne, si le 45e président des États-Unis sera entendu ou acceptera d'être entendu dans le cadre de cette enquête russe.
En tout cas, on le suit grâce à vous, Grégory. Il y en a un qui est pas tendre avec Trump, c'est pas une première, mais enfin tout de même, c'est un républicain. Il s'appelle John McCain et on le connaît bien, ancien prisonnier du Vietnam, ancien candidat à la Maison-Blanche en 2008 face à Barack Obama. Demain, aux États-Unis sort le dernier tome de ses mémoires. On sait que McCain se bat contre un cancer du cerveau. Le vieil homme est malade, il va mourir, il ne mâche pas ses mots à l'égard de l'actuel locataire de la Maison-Blanche.
Oui, le livre s'appelle The Ruthless Wave, une vague qui ne se calme pas. Et ce qui est très particulier, Fabienne, c'est qu'il sort demain alors que John McCain, 81 ans, est mourant. Cancer du cerveau, le vieil homme est désormais retiré chez lui en Arizona. Et donc ses mémoires font plus que jamais figure de testament dans lequel il cogne littéralement sur Trump. L'apparence de la fermeté ou de la pseudo-fermeté comme dans une télé-réalité, écrit-il, est plus importante pour lui que nos valeurs. John McCain n'a pour l'instant donné aucun entretien, sans doute que son état de santé ne le permet pas. Mais il a lu pour la radio publique NPR, ces quelques lignes. Écoutez, c'est l'auteur qui lit son texte.
I don't know how much longer I'll be here.
Je ne sais pas combien de temps je serai encore là. Peut-être que j'ai encore 5 ans, si les traitements contre le cancer progressent, si on trouve un nouveau traitement. Cela pourrait prolonger ma vie. Mais peut-être que je serai parti au moment où vous entendrez cela. Il y a des choses que je souhaite faire avant, des projets que je veux terminer, des gens à voir. Mais surtout, je veux parler à mes concitoyens, si cela est encore possible.
John McCain qui a fait savoir qu'il ne souhaitait pas que le 45e président des États-Unis assiste à ses funérailles. Ce seront celles d'un héros américain au parcours politique inachevé, parfois un peu brouillon. On se souvient, Fabienne, de son alliance avec Sarah Palin. L'ultra-conservatrice. Mais le jour où McCain ne sera plus là, eh bien, ce sera une page d'histoire de l'Amérique qui se tourne et qui se tournera sans Donald Trump.
Allez, Grégory, Bill Gates, pas charitable, voire carrément moqueur. Donald Trump et l'homme de Microsoft se sont rencontrés à deux reprises, il n'y a pas si longtemps. Il est pas certain qu'il y ait une prochaine fois, du coup, Grégory.
Écoutez, je fais très vite. NBC a diffusé en fin de semaine dernière une vidéo dans laquelle Bill Gates s'adresse aux employés de sa fondation. Et Bill Gates raconte à ses employés que lui et Trump en sont venus à parler ensemble de la recherche pour mettre au point un vaccin contre le sida. Et voici la suite de la conversation, telle que racontée par Gates.
It was actually kind of scary how much he knew about my daughter's appearance.
C'était plutôt effrayant de constater tout ce qu'il savait sur l'apparence physique de ma fille. J'ai pas trop aimé ça. Mais bon, la seconde fois où je l'ai vue, c'était en mars 2017 à la Maison Blanche. Et lors de ces deux réunions, il m'a posé des questions sur la vaccination. Et les deux fois, il a voulu savoir s'il y avait une différence entre le sida et le papillomavirus. J'étais en mesure de lui répondre qu'il arrive rarement qu'on les confonde ces deux-là.
Voilà, rire de l'assistance. Pas certain que ça ait fait rire à la Maison Blanche. Pour une fois, Trump a été discret sur Twitter et n'a publié aucun commentaire suite à la diffusion de cette vidéo par NBC jeudi dernier.
Sans blague. Merci beaucoup, Grégory Philippe. Le monde selon Trump, c'est tous les lundis dans Un jour dans le monde. Et Grégory, n'allez pas trop loin, Grégory, puisqu'on vous retrouve tout à l'heure à 19h avec Sébastien Paour. Vous évoquerez les fameuses déclarations de Mike Pompeo tout à l'heure. Déclarations extrêmement guerrières sur l'Iran et sur le nucléaire. À tout de suite.
Le 18-20. Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Et l'édito d'Un jour dans le monde avec Anthony Bélanger. Anthony, on en a parlé déjà dans Un jour dans le monde. On s'était beaucoup étonné de ces athlètes des Jeux du Commonwealth qui ont fait défection pour rester en Australie. Ça faisait très URSS à l'époque du rideau de fer.
C'est exact.
Mais on a des chiffres. Oui. 200 athlètes et 200, c'est beaucoup, c'est même du jamais vu.
Oui, on a ces chiffres depuis quelques heures, enfin quelques jours. D'abord, il faut expliquer pourquoi. Le mois dernier, l'Australie organisait les Jeux du Commonwealth. Grosse organisation que ces Jeux Olympiques de l'ancienne Empire britannique. 71 nations et territoires y participent, ainsi que près de 4500 athlètes. Or, on le sait, à chaque fois qu'une compétition internationale a lieu dans un pays occidental, une petite partie des délégations officielles disparaît dans la nature et réapparaît quelques jours plus tard pour demander l'asile politique. Généralement, le taux de défection tourne autour de 0,5% des athlètes officiels des délégations, ou même journalistes accrédités. Par exemple, après les Jeux du Commonwealth 2014, c'était à Glasgow, 21 21 athlètes ont demandé la protection de la Grande-Bretagne. En 2006, à Melbourne, encore une fois en Australie, 45 personnes ont fait de même. Et puis aux Jeux Olympiques de Londres, c'était en 2012, alors que 70 000 visas avaient été distribués, eh bien seuls 54 athlètes ou officiels avaient demandé l'asile. Autrement dit, les 200 de cette fois-ci, eh bien c'est énorme.
Mais alors on l'explique cet afflux ou pas ?
Qu'on peut chiffrer en proportion, je vous le disais, c'est 6 fois plus de demandes qu'habituellement. Eh bien l'essentiel, et puis en plus l'essentiel de ces demandes proviennent de délégations, d'athlètes, de journalistes, de pays africains comme le Rwanda, l'Ouganda, la Sierra Leone et le Cameroun. Alors, première raison évidente, ce sont des ressortissants de pays anglophones qui demandent l'asile à un pays anglophone avec lequel ils partagent une histoire coloniale commune. Il y a donc une certaine logique. Deuxième élément d'explication, dans la plupart des 54 pays d'Afrique, la population est majoritairement jeune, souvent bien éduquée et souvent sans perspective d'avenir. Pile le profil d'un athlète du Commonwealth. Ajoutez à cela le manque de liberté et vous obtenez un cocktail migratoire détonnant. Alors, il se trouve qu'en plus, l'Australie est une terre de richesse, d'abondance, avec peu d'équivalent dans le monde. Rendez-vous compte, le pays en est à sa 27e année consécutive de croissance.
Et puis, j'ai envie de dire théoriquement quand même, l'Australie est une terre de migrants.
Un Australien sur deux est un migrant, effectivement, ou un fils de migrant. Et un quart des habitants d'Australie sont même nés à l'étranger. C'est deux fois la proportion américaine et deux fois et demi celle de la France, où seuls 11,6% de la population est née à l'étranger. Et ce, une fois de plus, dans un contexte économique particulièrement favorable. L'Australie a besoin de tout. De main-d'œuvre peu qualifiée pour exploiter, vous savez, ses énormes ressources minières et agricoles, mais aussi d'ingénieurs, de médecins, bref, de tout. Pourtant, il n'y a pas de sujet plus toxique là-bas que l'immigration. L'actuel Premier ministre australien, qui s'appelle Turnbull, se traîne dans les sondages parce que, précisément, il est perçu comme un modéré sur la question migratoire. Enfin, des centaines de réfugiés sont maintenus loin des côtes australiennes, par exemple dans l'île de Papouasie-Nouvelle-Guinée de Manu, plutôt que de voir ces réfugiés poser le pied sur l'île continent. Une situation ubuesque, scandaleuse et inextricable du point de vue juridique.
Et puis on peut parler de paranoïa, enfin.
Oui, une paranoïa qui plonge très profondément dans la psyché australienne parce que l'Australie, il faut le comprendre, se vit comme une forteresse assiégée. 24 millions d'Australiens face à ces mastodontes démographiques que sont l'Indonésie, les Philippines ou même la Chine. Mmh. Pour les Australiens anglo-saxons qui, paradoxalement, descendent souvent de bagnards et de réprouvés venus de toute l'ancienne Empire britannique, le danger est donc asiatique et aussi musulman, un cocktail délétère de peur et de paranoïa qui pollue le débat politique au point que la réalité, à savoir l'immense richesse que l'immigration a apportée et apporte encore au pays, de l'aveu même des services gouvernementaux australiens, eh bien cette réalité est oubliée, oblitérée, au profit de fantasmes délirants d'invasion, des fantasmes que les 200 athlètes réfugiés risquent d'alimenter, et ce, à leur corps défendant.
Anthony Bélanger pour Un jour dans le monde, merci beaucoup, à très vite. Le 18-20 continue avec le téléphone sonne et puis le journal, bien sûr, à tout de suite.